Je remets ces moments que nous puissions.
Bonjour, nous sommes un petit comité, Yves disait, nous sommes un petit troupeau, mais le Seigneur nous dit, ne crains pas, petit troupeau, il a paru bon au Père de vous donner le royaume. Je ne sais pas vous, moi j'étais très touché ce matin, à la fois par l'introduction qu'a donnée Jean-François, et puis le choix des chants. Bon, je livre un peu mon cœur, on est en petit comité. J'étais touché, le Seigneur a guéri des choses dans mon cœur ce matin. J'avais beaucoup de mal avec cette fête de Noël, compte tenu de mes origines où j'ai souvent vu ce Jésus, ce petit Jésus dans les bras de sa mère. Et c'était quelque chose de difficile quand je me suis converti. J'ai compris qu'il était qui il était. Et c'était difficile pendant des années. Et à travers ce qui a été dit ce matin, à travers le choix des chants, ce chant, cet air minuit chrétien, mais avec les paroles qui sont sur ce chant, j'en ai chanté d'autres pendant des décennies. Et vraiment, c'est extraordinaire. Alors ce matin, je crois que c'est un culte de reconnaissance, et j'allais dire un culte d'adoration. Et ce matin, je vais vous partager un certain nombre de choses, et on va lire des textes dans la Bible. Simplement, recevons ces textes, recevons ce que Dieu veut nous dire. Remercions-le de nous avoir laissé, transmis cette parole à travers les siècles et donner le Saint-Esprit pour nous la révéler. C'est un peu tout ce que j'ai envie de dire ce matin, que ce soit un culte de reconnaissance. Et je crois qu'on a déjà bien commencé dans ce sens-là, à travers le choix des chants, à travers les prières qui sont montées. Il se trouve que notre culte du premier jour de la semaine, comme c'est dit dans les Actes, coïncide avec ce jour particulier célébré par l'ensemble de l'humanité qui est Noël. Alors, savoir donc, c'est ce que je vous disais un peu en introduction, Noël chrétien provient en fait de la christianisation d'un culte païen qui était rendu au soleil invincible. On célébrait, les païens, notamment Rome, célébraient le soleil qui, on est dans les jours où les jours sont les plus courts, mais en fait, placé dans ces jours-là, c'était une célébration du soleil qui était toujours invincible et invaincu. Alors, comme je rappelais mardi soir, on peut s'autoriser, comme Paul l'a fait à Athènes, d'utiliser des choses païennes pour célébrer la gloire de Dieu. Alors, notre soleil, oui, il est invincible, c'est le soleil de justice. Et sous ses ailes est la guérison. Alors, si c'est cela que nous célébrons, je peux m'y joindre. Mais je crois que c'est important de revenir là-dessus. Je le fais aussi parce que peut-être il y a parmi nous des hommes et des femmes qui, comme moi, ont été blessés par ces choses. Et donc, je ne veux pas être une pierre d'achoppement en disant « Mais qu'est-ce qu'on vient ici puis on célèbre Noël ?» Oui, mais dans ce sens-là. Et c'est vrai que cette fête de Noël à travers les siècles a été beaucoup représentée, fête de la nativité, avec ce petit enfant tenu dans les bras de sa mère, et au fil des siècles a été occultée, il faut le dire, pendant des siècles, oui, ont été occultées les raisons réelles de qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire, il est venu en chair, et le but suprême de sa venue, ouvrir de nouveau l'accès de tout homme à une relation avec son Créateur, et révéler à tout homme qui croit qui est son Père Céleste. Et faire en sorte qu'il soit, pour ceux qui croient, le chemin, et ça a été rappelé par Jean-François, le chemin, la vérité et la vie, par Jeannette aussi dans les chants. C'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin pour vivre selon la volonté de notre Père Céleste. Alors ce matin, je voudrais qu'on souligne un aspect. Dans Matthieu, on va lire ce texte, Jésus est présenté comme l'Emmanuel. Et le titre de mon message, c'est de l'Emmanuel à Christ en nous. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et Jésus va venir pour que Christ soit en nous. Donc on va méditer un peu là-dessus. Dans Matthieu 1, les versets 18 à 23, on peut les lire. On a lu un récit de la Nativité dans Luc. Et bien là, ce sera dans Matthieu. Matthieu 1, versets 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, et qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, au milieu de nous. C'est vrai que tout au long des siècles, quand on voit l'histoire du peuple hébreu, depuis la chute, Dieu a voulu se rapprocher. C'est toujours lui qui a pris l'initiative de se rapprocher de nous, puisque à partir de la chute, notre cœur est entièrement éloigné de Dieu et entièrement tourné vers le mal, mais lui n'arrête pas de prendre les initiatives. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche. C'est toujours Dieu qui reprend l'initiative pour revenir vers nous. L'Alliance, on a vu l'Arche tout à l'heure, l'arc-en-ciel. Je ne détruirai plus la terre par l'eau. Même quand il y a eu cette destruction, il a sauvé toujours un petit reste. Et on voit Dieu qui, au fil des siècles, renoue, redonne des alliances. L'alliance avec Abraham, avec Moïse, avec la loi, et puis là, avec Jésus-Christ. On va lire des textes qui nous donnent un peu l'ampleur de ce qui est annoncé, de ce qu'annonce l'Écriture. On va voir que c'est bien plus encore que l'Emmanuel. Ésaïe 7, on va lire beaucoup de textes, parce que je pense qu'ils sont magnifiques, et puis ça va nous donner l'occasion de réaliser, certains n'ont peut-être pas l'occasion de les lire très souvent, c'est pour vous y encourager. Dans Ésaïe 7, on va lire les versets 10 à 16. Alors, les textes qu'on lit là, aussi bien dans, enfin, ça avait été essentiellement dans Ésaïe, sont des textes qui sont dans un contexte du peuple hébreu qui déjà, nous sommes déjà bien loin de la conquête de Jérusalem par David et de la paix qui règne sous Salomon. Nous sommes déjà après des siècles d'idolâtrie. Le peuple de nouveau s'est écarté de son Dieu vivant. C'est terrible, vous savez. Mon peuple est prompt à s'éloigner de moi. Ça nous concerne peut-être pas, mais prenons garde quand même. Mon peuple est prompt à s'éloigner de moi. Et dans ce contexte-là, le Seigneur envoie ses prophètes encore. Là, c'est un contexte, c'est Akaz. On n'est pas loin de la chute de Jérusalem, hein. De la destruction même. Et Dieu dit à Akaz, mais demande-moi un signe. Et Akaz dit, je ne demanderai pas à Dieu. Et Dieu lui dit, mais ça ne vous suffit pas de vous éloigner de moi. Et en plus, quand je vous demande, je vous propose, je vous tends la main, vous vous refusez. On est dans ce contexte-là. Ésaïe 7, versets 10 à 16. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. » Akaz avait des problèmes avec des adversaires, des ennemis. Et vous voyez, quand on s'éloigne, eh bien, au lieu de recevoir, on a un problème avec ça, hein, recevoir ce que Dieu veut nous donner, on se dresse encore et on croit qu'on va y arriver seul. Eh bien, Dieu dit, bah, écoutez, je vais encore vous donner un signe. Hein. On va lire ensuite Ésaïe 8, verset 17, à Ésaïe 9, verset 6. C'est assez long, mais je crois que ça vaut le coup. Ésaïe 8, verset 17. Donc là, vous voyez, on est encore dans un contexte où le prophète se sent isolé, c'est-à-dire il est amené à parler à un peuple qui ne veut plus entendre. Hein? Donc il est seul, mais il est avec son Dieu. C'est le ministère prophétique, il n'est pas simple des fois. Hein? Il n'est pas simple. Parler de la part du Seigneur à des cœurs qui n'ont pas envie d'entendre. Hein. Alors, Ésaïe 8, verset 17, « J'espère en l'Éternel, dit Ésaïe, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. L'idolâtrie conduit à la prostitution conduit au meurtre et le meurtre conduit à l'errance. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. C'est les temps que nous vivons aussi. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtaï, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, la Palestine, on pourrait dire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang, sont livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et encore, nous allons lire Ésaïe 11, versets 1 à 12. Ésaïe 11, versets 1 à 12, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamas, et dans les îles de la mer. Pourquoi ces textes ? Pourquoi j'ai lu des textes aussi longs ? Parce que ces textes ont une portée prophétique très longue sur le temps, puisqu'à la fois ils annoncent la première venue de Jésus, un enfant nous est né, nous l'avons chanté, le Fils nous est donné, c'est le Fils de Dieu qui nous est donné. Donc j'ai dit ce matin, c'est un culte de reconnaissance et d'adoration. Ces choses ont été écrites de la part de Dieu il y a 750 ans avant la venue de Jésus. Nous sommes à 2700 ans après ça, nous avons ces textes. Rien que cela, je crois que nous pourrions nous arrêter et dire Seigneur, Seigneur, quel grand Dieu tu es. Quel amour pour nous. Quel plan. Tu es vraiment l'architecte et le constructeur. Tu as combiné tout ça, que tes pensées sont nombreuses. À travers l'histoire, tu as accompli ces choses. Donc ces textes nous parlent de la première et de la seconde venue de Jésus-Christ. Vous savez, c'est d'actualité. Il a été voté à l'ONU hier ou avant-hier, je crois, une résolution à l'unanimité. Enfin, pas l'unanimité, il y a une abstention, les États-Unis, qui condamne l'implantation des colonies d'Israël. Humainement, on peut dire, dans le fond, c'est normal. Mais regardons le regard de Dieu sur ces choses. Et alors que les États-Unis avaient toujours exercé leur droit de veto sur ce sujet-là, là, il ne l'a pas exercé. C'est encore Obama qui est aux manettes. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne fais pas de politique, mais je regarde comment Dieu voit ça. On vient dans des temps où Israël va être vraiment être une cible. Alors, vous savez, je ne fais pas partie de ceux qui ont une espèce d'idolâtrie pour Israël. Aujourd'hui, c'est un peuple qui ne respecte pas la loi de Dieu dans bien des sujets. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Et nous, c'est notre horloge aussi. Nous, c'est notre horloge aussi. C'est quand même un fait aujourd'hui, alors que sur les problèmes là, de la Syrie, etc., il n'y a jamais eu... Les droits de veto s'exercent à qui mieux. Là-dessus, ça concerne Israël. Tout le monde est d'accord et tout le monde a applaudi pour dire qu'il faut arrêter. Mais ce n'est pas la parole des hommes qui va s'accomplir, c'est la parole de Dieu. Ces terres ont été données à Israël. Il n'est pas une question de mérite, c'est une question de ce que Dieu a dit. Et les temps vont s'accomplir. Mais donc, on a cette tension qui va augmenter. Et nous sommes dans des temps de ténèbres. Et je crois que c'est important pour nous, chrétiens, qu'on comprenne ces textes prophétiques. Oui, un enfant nous est né, mais ce n'est pas que cela. Vous voyez, la portée, c'est un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. Nous, nous savons aujourd'hui, ça a été rappelé, qu'il est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il règne, qu'il reviendra. Ça alerte tout simple. Mais celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui a vécu jusqu'à 48 ans sans savoir ces choses. Sans savoir ces choses. Sans savoir un tout petit bout de la vérité, mais ce n'était pas la vérité. Parce que où est notre espérance si Jésus ne revient pas? Où est notre espérance s'il n'est pas vivant? Où est notre espérance si simplement il est à la croix? Nous sommes les plus malheureux des hommes si Christ n'est pas ressuscité. Et ces textes nous donnent ces choses. Ces textes nous... Vous voyez, je pense qu'il y a là notre espérance, notre vraie consolation. Elle est là, frères et sœurs. Sinon, c'est de la bricole. Ésaïe 9, donc versets 5 et 6, nous parle de la naissance de Jésus, de sa révélation progressive comme le Fils de Dieu, un Fils donné pour notre salut. Puis il nous est décrit comme celui qui règne. La domination repose sur ses épaules. Il est l'agneau immolé, il est l'agneau sur le trône, il est assis à la droite de la majesté divine. Celui qui est vu par Jean, il est Dieu puissant, l'égal du Père. Mais celui qui n'a pas revendiqué cette égalité, mais qui s'est humilié jusqu'à donner sa vie à mourir sur la croix, c'est pourquoi le Père l'a élevé, l'a souverainement élevé. Ésaïe 11, verset 1 à 5, nous le décrit à la fois comme un serviteur, un fils rempli de sagesse et de crainte de l'Éternel, soumis à l'autorité du Père, mais aussi à l'évidence, dans son règne, durant le millénium. Ces textes nous paraissent assez clairs aujourd'hui, parce qu'à la nouvelle naissance, nous avons cru à l'Écriture, parce que la foi a été déposée dans nos cœurs, nous n'avons rien fait, si ce n'est sans doute un moment, lu ou entendu la parole de Dieu et permis au Saint-Esprit de faire son œuvre. Mais réalisons, je vous dis, reconnaissance et adoration, Seigneur. J'aurais pu lire la Bible pendant des années. Si tu n'étais intervenu, je n'aurais rien compris. J'aurais peut-être été un théologien. Je le dis parce que avant de me convertir, je, Je voulais faire de la théologie, j'avais été voir le responsable des jésuites, je voulais faire des formations. Mais on peut être théologien, mais ne jamais avoir eu cette révélation. Adorons ce matin. Adorons, disons Seigneur, notre reconnaissance qu'un jour tu as fait une œuvre dans mon cœur et tu m'as révélé cette parole. Ceci, oui, nous a amené à être reconnaissants envers Dieu, d'avoir préparé ces choses depuis si longtemps et que nous en ayons la révélation. Aujourd'hui, je voudrais lire deux textes dans Hébreux 11. Un texte, vous savez, ça fait du bien. Relisons simplement ces textes. Hébreux 11, verset 13. Hébreux 11, verset 13. Il y a tous les témoins de la foi. Il est dit au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Frères et sœurs, combien de fois nous aimons voir des résultats? Il nous est parlé de témoins de la foi qui n'ont pas vu les promesses, mais qui ont vu et salué de loin. Au verset 39, il est dit, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Des comptes, ces témoins de la foi, ces témoins de la foi, nous sommes au bénéfice de ces choses. Nous avons tous les textes, nous avons la révélation, nous avons l'intégralité de ces textes. Donc tous ces textes que nous avons lus nous annoncent la venue de Jésus-Christ en chair, l'annonce comme le Fils de Dieu, Dieu puissant, Seigneur appelé à régner sur toutes les nations, et enfin celui qui jugera le monde. Conformément à ce qui nous est dit dans les Actes 17 au verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà qui est celui que nous célébrons aujourd'hui, dont nous célébrons la naissance, Jésus-Christ, celui qui jugera. Celui que le Père a missionné pour nous sauver, pour mourir, pour ressusciter, pour être établi en gloire et qui nous jugera. C'est celui-là. Voilà l'Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà le Seigneur de gloire qui reviendra pour juger. Et entre les deux venus, eh bien il y a, pour ceux qui croient, Christ en nous. En nous. Parce que, aujourd'hui, Christ n'est plus en chair au milieu de nous. Mais tandis qu'il était l'Emmanuel, Dieu, avec son peuple, au milieu de son peuple, bien plus riche que le tabernacle, bien plus riche que le temple dans lequel on célébrait Christ, venu en chair au milieu de son peuple. Pour les disciples, ce n'était pas évident. Pour nous, encore une fois, aujourd'hui, nous avons l'Écriture, nous avons la Révélation, mais nous allons lire quelques passages. Qu'en était-il pour les disciples, ceux qui étaient avec l'Emmanuel, ceux qui suivaient Jésus en chair, dans son parcours sur la terre, dans son ministère sur la terre? Dans Jean 13, les versets 33 à 38, je vous invite à lire ça. Jean 13, versets 33 à 38. Jean 13, les versets 33 à 38. Voilà ce que disait Jésus, l'Emmanuel, venu en chair, au milieu de ses disciples. Il leur parle maintenant, il approche du moment où il va accomplir sa mission. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » « Ah, Simon-Pierre !» Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Pierre, pas plus que nous, ne pouvait suivre Jésus, l'imiter, le servir. Souvent, on entend ça, il faut imiter Jésus. On avait imité Jésus, comme il marchait, etc. On ne peut pas imiter Jésus dans la chair. Pierre, pas plus que nous, ne pouvait imiter Jésus, l'imiter et le servir tant qu'il n'était pas né de nouveau. Il a essayé de le suivre. Il a essayé de suivre Jésus sur la base de sa volonté et de sa chair. Et ça aboutit à quoi ? À la trahison. C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Jésus, aussitôt après avoir annoncé cela à Pierre, va enseigner concernant sa présence à leur côté, ou plus précisément en eux cette fois-ci. Et cette fois-ci, c'est Thomas qui va être l'instrument pour l'enseignement de tous. Nous pouvons lire dans Jean 14, à partir du verset 7. Bon, Jésus leur confirme. Hein. Bon, écoutez, on va lire, on a un peu de temps, on va lire au début du chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc je vous resitue aussi cet enseignement. Jésus, sciemment, dit des choses à ses disciples dont il sait qu'ils ne peuvent pas les comprendre encore. Mais il va quand même le déposer dans son cœur. Et le temps venu, il amènera la révélation du Saint-Esprit et ça, il y aura comme une éclosion. Ils comprendront alors ce que Jésus leur a dit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Qui peut comprendre ces choses, frères et sœurs ? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Qui peut comprendre par son intelligence des paroles pareilles? Et je vous passe Jean 17 où il va dire... Moi en eux, Père, tu vis en moi, je vis en toi, et moi en eux, et nous venons chez eux pour faire notre demeure. On ne sait plus où on est par l'intelligence. Mais lorsque l'Esprit révèle ces choses, alors nous vivons ces choses. C'est ça la parole de Dieu. Jean 16 encore, versets 5 à 15. Maintenant, Jean 16, versets 5 à 15, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Celui qui était en chair avec eux va partir, il commence à comprendre cela. Il y a une tristesse, ils n'ont pas encore compris la suite. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais... et je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus en chair. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes au bénéfice de ce qui a été annoncé par Jésus à ses disciples. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu par lequel nous avons été régénérés. Soyons reconnaissants et adorons. Christ habite cette fois-ci en nous, par le Saint-Esprit. Il n'est plus avec nous en chair, mais il a fait de nous sa demeure. Il n'est plus avec nous en chair, mais il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est ce que Paul rappelle dans 2 Corinthiens 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Vous voyez que nous avons à adorer et pas à idolâtrer. Nous avons les textes qui nous disent le ministère terrestre de Jésus, mais nous avons surtout le Saint-Esprit qui nous révèle qui il est dans toutes ses dimensions. Pierre également insiste sur ce point dans 1 Pierre 1. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, c'est-à-dire le temps de notre passage sur la terre, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez, c'est notre cas, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir accord. Nous avons cru en lui, alors que nous ne l'avons pas vu, nous n'étions pas là en temps de son ministère terrestre, et nous l'aimons, et nous croyons en lui, sans le voir encore. Nous sommes dans cet entre-deux. Entre ces devenus. Nous sommes entre ces devenus, frères et sœurs. Et ça, c'est important que nous soyons bien situés dans ce temps-là. Jésus n'est plus sur la terre, il n'est pas encore revenu, et nous sommes dans ce temps de la foi et de l'espérance. La foi en ce qui a été fait, l'espérance, c'est-à-dire la certitude qu'il revient, et c'est nourri de ces choses que nous pouvons nous tenir debout et tenir ferme dans les temps qui sont ceux-là, dans les temps qui sont là, pas qui vont venir, qui sont là, dans les temps où les chrétiens nés de nouveau vont subir des pressions énormes. Si nous ne sommes pas bien plantés dans notre histoire, sachant où nous sommes, nous ne tiendrons pas, mais nous tiendrons par la foi. Je termine par Colossiens 1, verset 24. Paul, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je veux relire ce dernier. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ne trouvez-vous pas qu'il y a de quoi être reconnaissant et de quoi adorer? En conclusion, je voudrais vous interpeller par quelques questions. À partir de textes comme cela, quelle est notre intimité avec Jésus? Le Christ manifesté en chair il y a 2000 ans, mais vivant en nous par son esprit aujourd'hui. Comment prenons soin de cette intimité? Comment, quel temps passons-nous avec celui qui vit en nous? Quel temps prenons-nous pour l'interroger, comme le faisaient ses disciples tandis qu'il était sur terre? Est-ce qu'on prend un temps, les questions qu'on se pose? Est-ce qu'on lui pose à celui qui vit en nous par le Saint-Esprit, pour lui poser des questions et pour écouter ses réponses? Quel temps prenons-nous pour méditer sur ces mystères cachés de tout temps, mais qui nous sont révélés? Je crois que ça nous édifie. Ça nous édifie. Je l'ai fait, mais courtement ce matin. Mais sur chaque texte là, on peut passer des heures et réaliser. Vous voyez ce monde qui cherche à tout prévoir, à tout contrôler. Et on voit en ce moment à quel point on peut se planter lourdement avec des moyens de calcul énormes. Mais on se plante sur une primaire, on se plante partout, quoi. On se plante sur la bourse. Et là, le Dieu d'éternité a parlé par la bouche d'homme et il accomplit. Je lisais dans La Bonne Semence, il y a deux jours ou un jour, le recensement ordonné par César. Recensement sur tout l'Empire. César, lui, je suis puissant, j'ordonne le recensement. Mais ce qu'il ne se savait pas, c'est que Dieu a permis ce recensement à ce moment-là parce qu'un enfant était né et qu'il fallait que s'accomplisse l'Écriture et qu'il soit recensé à Bethléem. Vous voyez, c'est la pensée de l'homme, la pensée de Dieu. César. Mais en fait, César, il est la main de Dieu. Il oriente le cœur des rois comme un courant d'eau. Et il a mis la pensée, César, de faire ce recensement à ce moment-là pour que cet enfant, Joseph, né à Bethléem, ce soit recensé à Bethléem. Ah moi, ça m'a bouleversé. Parce que ça, c'est la pensée de Dieu. Et dans nos vies, c'est important de voir ça. C'est important de voir ça. Combien de circonstances, moi, je suis touché. Quand il y a des situations qui se présentent, on a prié Dieu, on lui a demandé, et puis d'un seul coup, un événement survient, paf, qui règle 10 situations d'un coup, mais on n'y avait pas pensé. C'est Dieu, ça. C'est Dieu. Alors moi, quand je dis ça, je plante un bâton, je dis, Dieu est là, sur mon parcours. Seigneur, ça, je sais que c'est toi. Parce que ça, ce n'est pas la pensée de l'homme. Hein? Avons-nous conscience de cette réalité? Christ en nous, l'espérance de la gloire, qui seul nous permet de tenir ferme contre la tentation, contre l'accusation de l'adversaire, et qui permet aussi de débusquer les mensonges qui nous tiennent encore captifs, parce que nous avons reçu la vérité, mais il y a encore des choses qui nous tiennent. Mais de savoir, je ne dis pas de ressentir 24 heures sur 24, mais quand on ne ressent pas, on sait quand même que Christ est en nous. Que Christ est en nous. Alors oui, je répète, ça nous permet de tenir contre la tentation, contre l'accusation de l'adversaire et de débusquer les mensonges qui nous tiennent encore captifs. Alors saisissons ce matin cette réalité par la foi et la compréhension des Écritures. C'est une nécessité. Nous prions. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je veux te remercier ce matin, Seigneur, pour ce culte. Je sais, Seigneur, que tu as préparé ce qui nous a été dit en introduction, ces chants, Seigneur. Seigneur, ces chants. Seigneur, ta parole que tu nous as donnée, nous voulons ce matin te dire notre reconnaissance et adorer, nous tenir dans l'adoration, Seigneur. Non pas d'un livre, Seigneur, mais de ta personne, Seigneur, parce que tu es l'auteur de ce livre. Seigneur, tu as inspiré des hommes de différentes conditions tout au long de l'histoire. Et nous voyons avec quelle précision, Seigneur, c'est bien ta volonté qui s'accomplit. Seigneur, nous te bénissons de ce que, un jour, tu t'es révélé à nos cœurs. Merci pour Jésus. Oui, merci pour le petit enfant, mais merci pour Jésus-Christ, celui que tu as envoyé, que tu as oint du Saint-Esprit pour délivrer les captifs, guérir les corps brisés, restaurer l'âme de ceux qui ont été abîmés par le péché. Tu es celui-là, tu es celui qui revient aussi, et nous attendons, et nous espérons, et nous savons, nous avons une ferme assurance de ces choses, nous avons une pleine assurance dans nos cœurs, parce que le Saint-Esprit nous a scellés pour cela. Nous te bénissons et nous te louons ce matin, Père. Amen. Amen.